Good Morning Business, le grand débat.
Et le grand débat aujourd'hui, c'est avec Carole Jugelet-Welin. Bonjour, CEO bonjour. Et fondatrice de June. Florence Tondumelic, bonjour, présidente de Zurich France. Et Bena Houdabdedaï, notre expert international. On va commencer avec la rémunération des patrons. Alors, je sais que, Carole, à chaque fois que vous venez, on parle de rémunération des patrons. On ne fait pas exprès, mais c'est un sujet du mercredi. C'est parce qu'il y a eu une étude de Proxinvest qui nous dit qu'aujourd'hui, les patrons du CAC 40 en moyenne gagnent plus de 100 fois la rémunération moyenne de leurs salariés. Alors, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est choquant ?
Alors, je pense que c'est ni normal ni choquant. Il y a des conseils d'administration qui, derrière, décident de rémunérer des patrons à hauteur de X. Donc, la rémunération des patrons du CAC 40, en fait, c'est 40 patrons en France. Ils font quoi, les patrons des PME ? C'est-à-dire que la problématique de mettre ce genre de message...
Ils gagnent moins de 10 000
euros. Non, mais c'est exactement ça. La problématique de mettre ce genre de message et d'en faire des caisses autour d'eux, les patrons du CAC se sont encore augmentés, c'est vous croisez votre patron de votre petite PME moi, je suis originaire d'Auvergne. Il n'y a pas de patron du CAC 40, il n'y a pas d'entreprise du CAC 40. Et donc derrière, on arrive. Oui, tu me dis quoi ? Il y a Michelin ?
Si, il y a Michelin, Michelin.
Mais ce que je veux dire, c'est que 99% des patrons qui sont en Auvergne, ce n'est pas le patron de Michelin. Et donc en fait, ça fait quoi sur les gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir, qui voient leur panier augmenter quand ils vont faire leurs courses au supermarché ? Ils se disent, ce salaud de patron de la petite PME avec laquelle je travaille, de l'entreprise qui va me faire ma plomberie, il s'est augmenté de 100%. Alors que pas du tout. Les patrons des PME, eux, ne s'augmentent pas comme ça. Ils ne sont pas à 100%, 200%, 300% plus que le salaire moyen chez eux. Donc de parler de ça, ça crée une espèce de distorsion qui est assez néfaste où les salauds de patrons s'augmentent tout le temps. Mais je suis d'accord. Mais ce n'est pas les salauds de patrons s'augmentent tout le temps versus les pauvres petits employés. C'est les patrons du CAC 40, c'est 40 entreprises. Il y a toutes les autres entreprises en France où les patrons ont des salaires normaux, corrects. Alors, et cohérents.
Juste pour être précis aussi, on ne dit pas ces salauds de patrons ils s'augmentent. On dit pourquoi leur rémunération a augmenté. D'abord parce que leurs résultats sont très bons sur les différentes trimestrielles et les différentes publications. Et puis qu'ensuite, effectivement, Proxinvest agrège toutes les données, c'est-à-dire les actions gratuites, les bonus. Alors peut-être qu'effectivement, Florence Tondumelic, présidente de Zurich France, est-ce que ça reste choquant cet écart qui s'est accru quand même, ça c'est vrai, 109 fois le salaire moyen dans une entreprise du CAC 40, ça c'est la rémunération du patron, ça a beaucoup progressé, on était à 79 fois avant la crise, l'écart s'accroît.
Alors effectivement, et je suis absolument d'accord avec Carole, il faut éviter de verser dans le sensationnalisme ou le négativisme. Pour moi, j'y vois fondamentalement un marqueur de la robustesse de notre économie, vous l'avez dit, de la performance et de la santé de nos entreprises. Et ça, c'est important.
C'est vrai aussi,
important pour l'ensemble de la société. Ces patrons, avant toute chose, ils créent de la valeur, et je crois que c'est ça aussi qui est reconnu. Mais c'est un fait aujourd'hui, ça cristallise, ça suscite un certain nombre de questions, parce que la question, c'est la façon dont ces rémunérations sont structurées, du lien avec la performance, mais aussi derrière, comment est-ce qu'on associe l'ensemble des parties prenantes, en particulier les collaborateurs, à cette création de richesse, à cette création de valeur. C'est tout le sujet pour moi du partage de la valeur.
Bien sûr.
Et je voudrais ajouter un petit point. Pour moi, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la performance des organisations, on le voit bien, l'intelligence des organisations, ça tient aussi au collectif et avant tout au collectif.
Ouais. Alors, et de plus en plus de primes extra-financières. On l'a vu ce matin, quasiment 10% des rémunérations variables désormais ont des critères extra-financiers et RSE. Ça, c'est nouveau, hein.
Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on va dans ce sens-là avec la publication non plus seulement de rapports financiers, mais de mesures de performance extra-financière. C'est tout le sujet du capitalisme des parties prenantes. Et je crois que c'est aujourd'hui un sujet qui est très important pour la transformation de nos économies et sociétés.
Alors, Bena Houdabdedaï, est-ce que c'est un sujet mondial ? Je sais qu'aux États-Unis, ça l'est, hein, ce problème de la rémunération, du partage de la valeur ajoutée. Mais est-ce qu'il est aussi aigu qu'en France ?
Ça l'est tout à fait dans l'ensemble des économies de l'OCDE, indépendamment de l'idéologie de fond, ouais. Prenant le Royaume-Uni, qui n'est pas exactement le pays le plus socialiste d'Europe. Il y a un article très intéressant dans Prospect, le magazine de réflexion de centre-gauche, qui estime qu'en fait, on est en train de refermer une parenthèse d'une rhétorique fallacieuse qui a été celle de l'époque Covid, où on voyait magnifier les agents en première ligne des services publics, les infirmières, les pompiers et autres agents de l'électricité, pour revenir, somme toute, à une forme de normalité qui est celle du rapport de force salariale, qui a tourné de nouveau en faveur du FTSE 100. Alors, le FTSE 100, c'est l'équivalent, disons, du CAC 40, où entre 2020 et 2021, la rémunération moyenne a augmenté d'1 million de livres. sachant qu'auparavant, elle avait baissé de 2,5 millions. Donc l'effet de rattrapage est encore en cours, indépendamment de la conjoncture actuelle, sachant que, là encore une fois, ça soulève d'une autre manière des interrogations sur cette parenthèse, encore une fois perçue comme fallacieuse, qui a été celle du Covid, où on a laissé croire à certains qu'une rhétorique permettrait d'effacer des décennies d'organisation du système de rémunération. Il n'y a pas de nouveau monde, il n'y en a jamais eu. Mais... Et c'est ce que démontre assez, de façon assez claire et nette ce papier de prospect.
Mais ça, c'est compliqué socialement. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on a légitimement expliqué à des gens qu'ils étaient essentiels à notre vie. Et aujourd'hui, on leur dit, ouais, mais les règles de l'économie, c'est la loi de l'offre et la demande. Et donc, on ne va pas vous augmenter.
Oui, et encore une fois, ce n'est pas un débat franco-français.
Non, bon. Peut-être sur la place des femmes dans les entreprises et les conseils d'administration.
L'Union européenne va obliger toutes les entreprises à féminiser les conseils d'administration. Nouvelle règle âpre négociation. On va arriver à 40% de postes d'administrateurs non exécutifs qui devront être occupés à parité. On n'est pas à parité chez vous, Carole, il y a trop de femmes. Mais ça vous concerne, ça vous concerne aussi.
Mais non, mais c'est marrant parce que, en effet, chez nous, il y a trop de femmes, puisque dans mon board, on a 4 femmes, plus moi, donc on est 5, pour un homme.
Alors vous savez que c'est un problème parce que la réglementation européenne qui va être adoptée aujourd'hui,
va vous imposer
elle
de
dit qu'il
mettre
faut
un homme.
Opposer 40% de postes de traitant d'exécutif ou 33% de tous les postes d'administration pour le genre sous-représenté. Donc c'est vraiment une loi pour la parité, ça veut dire que vous allez devoir avoir 33% d'administrateurs masculins.
Non mais c'est intéressant, mais
vous saviez pas ça, Carole.
Non mais j'ai découvert ça ce matin en arrivant. Moi, je suis extrêmement fière d'avoir beaucoup de femmes dans mon board parce que je trouve que on est rare dans les startups à avoir autant de femmes dans les boards pour plein de raisons. Il y a encore peu de femmes qui sont VC, investisseurs en capital risque, donc forcément, c'est moins facile d'avoir quand les fonds d'investissement disent à quelqu'un va au board de telle entreprise. Mais néanmoins, c'est vrai que cette problématique d'imposer une parité dans les deux sens va, nous, chez June, nous imposer de mettre un homme en plus dans notre board.
Alors, apparemment, ça ne concerne pas les petites entreprises.
On va voir.
Vous devriez être encore quelques années exemptés.
C'est hyper important, je pense, d'avoir cette parité-là, et notamment chez les startups dans la French Tech, où on le dit souvent, il n'y a pas assez de femmes, on est 7% de femmes dans le
FT120. La question, c'est pour contre les quotas, c'est ça le
moi, vous le savez, je suis contre les quotas depuis toujours. J'ai toujours été contre les quotas. Je trouve que les quotas ne sont pas... C'est une mauvaise réponse à un bon problème.
Florence Tondumélic.
Alors, Zurich, nous, on est l'exemple d'une très grande entreprise, et pour le coup, effectivement, on est à parité au niveau du conseil d'administration du groupe, du comité exécutif du groupe. Et moi, en France, on est à parité exacte, 6 et 6, au sein de notre comité exécutif.
Mais est-ce que c'est une parité contrainte, comme le dit Carole, ou est-ce que vous l'avez parce que vous estimez que c'était le meilleur pour vous ?
Alors, on l'a parce que j'estime que c'est le meilleur pour nous. Ça participe d'une conviction personnelle qu'effectivement, la diversité, et c'est pas seulement la parité, la diversité sous toutes ses formes, sociale, le handicap, même cognitive, permet en fait d'améliorer à la fois la performance de l'entreprise, mais aussi, on le voit, et c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation chez Zurich, le lien se fait entre diversité, performance, mais aussi résilience. Et donc, au sortir de la crise de 2008, les régulateurs nous ont interpellés dans le monde des services financiers sur l'importance d'avoir cette diversité pour permettre justement une résilience de nos organisations.
Vous vous êtes mis des quotas, justement ?
Non, on ne s'est pas mis des quotas, puisqu'on a travaillé beaucoup plus sur notre culture d'entreprise et sur nos politiques internes, justement pour épurer nos processus et nos perceptions de ce qu'on appelle les biais inconscients.
C'est quoi le débat mondial, Benahouda, sur ces questions ? Parce qu'on sait que c'est un mouvement qui est venu au départ, l'affirmative action des États-Unis, sur le fait qu'il fallait forcer l'histoire, forcer la main des entreprises ou des universités, par exemple, pour accueillir des minorités. Aujourd'hui, il y a un débat sociétal au sein de la planète sur est-ce qu'il faut effectivement aller sur ces contraintes ou est-ce qu'on va trop loin et est-ce qu'on surprésente certaines minorités juste comme effet d'affichage ?
Lesquelles minorités ? Parce que le thème est tellement large
que
vous avez une perception de la minorité qui diffère entre la France et l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une perception de la minorité et de la notion de quota qui n'a absolument rien à voir entre l'Europe et les États-Unis. L'Amérique du Nord estimant encore une fois qu'elle nomme les choses de façon claire et nette et que l'Europe, des euphémismes, tourne autour du pot pour ne pas dire il faut tant de femmes, tant de minorités ethniques, tant d'orientations sexuelles, etc., dans la structure de l'économie.
Mais ça, c'est le plus gros problème. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. On dit clairement, telle ethnie, c'est marqué sur ma carte d'identité américaine. Ouais. C'est marqué que je suis blanche caucasienne. Donc, clairement, derrière...
Est-ce que c'est mieux ?
Je ne sais pas si c'est mieux, mais le problème aujourd'hui qu'on a en France, et c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures, sais qu'il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont contre, mais en fait, aujourd'hui, la seule minorité qu'on arrive à traquer dans un système RH, de manière légale, c'est un homme ou c'est une femme.
Ouais.
Et donc, quelque part, ça met un défaut. Bon, nous, on est une petite entreprise, on est une cinquantaine. Bien sûr, je connais tous mes salariés, et on est au courant, entre guillemets, bah, on voit la diversité des gens, qui a grandi dans des milieux défavorisés, qui, alors si on est capable de savoir qui a un niveau bac ou pas le bac, parce que ça c'est un diplôme, mais tant qu'on n'aura pas l'autorisation de travailler sur la donnée, en disant bah, telle personne peut rentrer dans telle case, avec tous les problèmes que ça peut comporter derrière, des gens qui vont utiliser les cases à mauvais escient, on ne pourra pas être logique dans cette structure de quotas. Et c'est pour ça que je suis contre les quotas. Si on n'a pas la capacité d'analyser et donc de structurer de la data sur le sujet de la diversité, on ne peut pas faire de
quotas. Sauf que sur les femmes, pas de quotas, pas d'évolution. C'est-à-dire qu'on gagne des années quand même. C'est-à-dire que si on n'oblige pas, il se passe rien, Carole. Il faut des années pour arriver à des postes de direction. Enfin, on sera morte.
Alors, si j'avais le temps de vous expliquer l'histoire, je vous raconterais ce que j'ai vécu en Caroline du Nord en 2004, quand on avait des quotas qui imposaient un certain nombre de choses aux étudiants afro-américains au sein de notre université, qui était l'université de la Caroline du Nord, et qui se sont retrouvés, à cause d'une loi qui avait été votée 40 ans plus tôt, avec un bâtiment qui leur était dédié et qui a été obligé d'être construit totalement en dehors du campus et qui, au final, s'est retrouvé... Je suis d'accord, mais sauf que les États-Unis qui ont été pionniers les États-Unis qui ont été pionniers sur ces sujets de quotas et de lois pour protéger justement les minorités, bah, se retrouvent dans certains cas de figure avec une loi qui les mord à l'envers. Et de la même manière que là, si demain on m'impose d'avoir un homme de plus dans mon comité d'administration, enfin, en fait, ça n'a aucun sens, quoi, puisqu'on sort d'une vague où il y a principalement des hommes et il faudrait au contraire mettre plus de femmes.
Allez, on va parler de l'Europe de l'espace parce que c'est des journées cruciales aujourd'hui, hier et demain sur le budget qu'on va consacrer à effectivement aux investissements d'avenir. On va aussi peut-être par la liste des astronautes européens de la prochaine génération qui va suivre celle de Thomas Pesquet. Benahouda, est-ce que ce sujet de l'espace, on a vu à quel point les États-Unis ont révolutionné l'approche de l'espace avec le New Space, avec l'émergence d'acteurs privés dans ce sujet-là. Est-ce que l'Europe est un peu en train de courir derrière quelque chose qui la dépasse, ou est-ce que, selon vous, on peut encore, on voit les oppositions avec les Allemands, les Italiens, les Français, est-ce qu'on peut encore y parvenir ?
Alors, incontestablement, il y a des tiraillements, et comme à peu près tous les autres sujets de première importance entre Européens, entre les Allemands, les Italiens et les Français, pour l'attribution de la production des vecteurs, des lanceurs. Mais il semble que l'Agence spatiale européenne et les 22 États membres se soient mis d'accord cette semaine sur une répartition des tâches et de la production. Donc, de ce point de vue-là, il y a une avancée. Mais... ce qui est intéressant dans le cas européen, c'est que il y a d'une part, c'est Bruno Le Maire qui a dit qu'il faut songer à la rentabilité financière, etc. Et en même temps, les Américains, les Indiens, les Chinois, qui insistent sur l'idée que le rôle moteur des États dans cette industrie spatiale, même dans cette nouvelle approche du milieu spatial, reste tout à fait fondamental. Et que le leurre qu'on a vu avec Elon Musk, etc., le leurre, ce serait de croire que l'exploitation de l'environnement spatial peut être le même que celui de l'environnement maritime ou de l'environnement terrestre, et que ça reste un environnement extrêmement hostile, extrêmement difficile, contraignant à exploiter. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à un article passionnant qui a été publié par la revue Défense Nationale de Xavier Pascal, le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et qui explique très bien cela, cette façon dont l'Europe se situe entre deux mondes.
Florence Tondumelic. Oui, très bien. Je pense que sur le sujet de l'espace, on assiste à une révolution qui est cette démocratisation de l'accès à l'espace. Et dans ce contexte-là, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets, l'Europe a certainement une place à prendre, une troisième voie entre différents pôles dans un monde qui devient de plus en plus un monde de blocs. Simplement, avec ma casquette d'assureur, je voudrais alerter sur un sujet que nous, on voit pointer comme étant un risque émergent, qui est le risque de surexploitation de ce bien commun et le risque d'encombrement, avec toutes les implications que ça peut avoir aussi en termes de dommages.
Les déchets, les retombées sur la Terre.
Exactement, de cet espace.
Vous seriez candidate, Carole, pour partir dans l'espace? On espère qu'il y aura une femme tout à l'heure parmi les 4 ou 5 finalistes européens. Ça vous fait rêver ou pas?
Ah ouais, je suis extrêmement claustrophobe. Je ne prends pas les ascenseurs, je ne vais pas dans les parkings. Donc autant vous dire que l'espace...
Les drones qui vont survoler Paris en 2024 pour transporter les passagers, ce n'est pas pour vous non plus.
Pas du tout.
Benaouda. Oui, une seule donnée qui est, encore une fois, je renvoie cet article de la revue de Défense Nationale. Au seul mois de mai 2021, il y a eu autant de satellites lancés dans le monde que sur l'ensemble de l'année 2016. Si on prend l'ISRO, qui est l'exploitant indien, l'an dernier, il a envoyé 342 satellites pour 34 États. Donc, il y a une explosion, effectivement, ouais. Et une forme d'espace qui n'est pas contrôlée.